rumba del Magán. La rumba del Magán. La rumba del Magán. La rumba del Magán. Aquí falta algo. Aquí falta algo. Aquí falta algo. Aquí falta algo. Guasao y un casacoyá. Guasao y un casacoyá. Guasao y un casacoyá. Guasao y un casacoyá.
Guasao y un casacoyá.
Guataguaré, Guataguaré, Cata, Cata, Cata se manicú, Cata se manicú, Guña maricunga, Guña maricunga, Guña maricunga, Guataguaré, Guataguaré, Guataguaré.
C'est sur le 99.1.
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
L'aléatoire. L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette conférence consacrée à l'épistémologie de la musique dodécaphonique et à l'influence de la musique dodécaphonique dans l'esthétique musicale contemporaine. Cette conférence durera 4 heures, sans entracte, et sera suivie d'un débat. Bon spectacle.
Mais non, c'est une blague, n'ayez pas peur. C'est Chandelle, mais oui, c'est Chandelle. Détendez-vous. On desserre sa cravate, on retire ses talons. Voilà, je lis sur votre visage un grand désir. Vous êtes arrivé dans cette salle portée par les ailes légères de l'amour. Vous êtes venu animé d'une soif commune, d'un désir sublimé, d'une faim de musique. Vous ne serez pas déçu. Ce soir, Ensemble, nous allons découvrir ou retrouver une artiste, une voix, une parole de femme. Bienvenue à cette 25e édition du festival Chandelle. Merci d'être au rendez-vous.
Bonjour à tous, nous sommes à la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen à nouveau cette année pour cette 25e édition du festival Chandelle, café chanson au cours duquel j'ai le grand plaisir d'accueillir Nash et Laura Prince. Nash qui sera en concert tout à l'heure à 20h30 au Trianon Transatlantique. Et Laura Prince, qui était en concert à Belleboeuf hier soir et qui a animé d'ailleurs une masterclass également au Conservatoire de Rouen. Voilà. 25e édition qui se termine demain au Palais des Congrès de Oissel avec un groupe de 12 musiciennes qui nous arrivent des quatre coins du monde, qui s'appelle Yemaya Labanda. Il reste des places, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient s'y rendre, n'hésitez surtout pas. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, parce que Nash, je l'ai dit, vous allez vous produire sur scène tout à l'heure et vous allez nous quitter à 18h30. Donc j'avais deux questions qui peuvent s'adresser à vous deux. Toutes les deux, vous avez des origines familiales étrangères. Et donc j'aurais voulu que vous nous disiez si ces origines étrangères ont une incidence sur le travail de création que vous menez l'une et l'autre.
Alors bonsoir tout le monde, merci Anne-Marie de nous recevoir. Alors pour répondre, moi je dirais que du côté de mon papa, du coup qui est togolais, ça a beaucoup joué dans le sens où d'une certaine manière il ne m'a pas fait écouter que de la musique africaine, il m'a fait écouter aussi de la musique classique, de la country, du blues, du jazz, et du coup ça m'a, je pense, ouvert l'esprit dès le départ. Et du côté de ma maman qui est française, j'avais plutôt de la musique française, Edith Piaf, Brel, Nougaro, Brassens, Aznavour, son amour. Et voilà, et je pense que du coup, moi, ça m'a ouvert des horizons très très larges pour composer et être inspirée.
Et vous, Nash ?
Bonsoir à tous et à toutes. Oui, bien sûr, évidemment, ça a vraiment impacté énormément ma musique et la poésie aussi. Je crois que aussi ça m'a fait comprendre très très vite que la musique était un langage universel. Et c'est vrai que je chante en français, j'adore écrire la langue française, mais quand je chante en français, même dans des pays qui ne comprennent pas le français, je me rends compte que des émotions peuvent passer et peuvent être captées sans même comprendre vraiment ce qui est raconté. C'est une vibration comme ça qui est reçu, et c'est ça, je crois, qui me porte le plus dans la musique, me dire qu'on peut jouer partout, quelle que soit notre langue, notre origine, et communiquer ensemble et partager des belles choses ensemble, quoi. Donc c'est ça pour moi la force de la musique.
Vous êtes toutes les deux auteurs, compositrices, interprètes. Pour vous, Nash, l'écriture, dans votre famille, il y avait votre grand-mère, André Chédid. Je crois aussi qu'elle vous a un peu initié à l'écriture quand vous étiez enfant.
Oui, complètement. Je voyais cette femme, justement, qui était une femme qui était libanaise, qui était arrivée en France et qui avait réussi à devenir une écrivaine française en étant libanaise, et qui avait réussi aussi à faire évoluer et à faire rayonner la langue française en étant immigrée. Donc c'est très très fort déjà symboliquement, et c'était une femme, une des premières femmes aussi. Aujourd'hui, il y a des médiathèques, des écoles André Chédid partout en France. Et elle n'est pas née sur le sol français, et puis c'était une femme, quoi. Donc elle m'a beaucoup inspirée, et je me suis dit que, en la voyant comme ça quand j'étais petite, je me suis dit moi aussi j'ai envie de pouvoir m'exprimer, quoi, de dire ce que je ressens et que j'arrive pas trop à dire comme ça. Peut-être que je vais trouver un médium, un moyen d'exprimer ça quelque part.
Et d'ailleurs, sur ce besoin d'expression, toutes les deux, cette envie de chanter, elle naît pendant votre enfance. Ce que vous dites, Nash, qu'à 8 ans ou 5 ans, je ne sais plus, mais enfin très jeune, vous écoutez la Calas, ça vous émeut énormément, et vous vous dites, mais moi je veux devenir chanteuse. Et puis vous, Laura, à 13 ans déjà, vous avez envie de composer, vous avez envie de chanter. c'est pas un mythe. Enfin, des fois, on dit ça des artistes où on les entend qui disent « Oh ben oui, moi, très jeune, j'ai eu envie de chanter et tout ça. » Mais on a l'impression que pour vous deux, c'est quelque chose qui est ancré vraiment dans l'enfance.
Oui, je pourrais répondre un peu comme Nash, bizarrement. Moi, c'était pas la Calas, pourtant la Calas, ça me touche beaucoup. Mais je dirais que c'était Whitney Houston que j'ai entendu, je crois que j'avais 6 ans, l'album Bodyguard qui sortait à ce moment-là. Et voilà, pour moi, c'était une révélation. Je me disais, mais comment une voix pareille peut exister dans ce monde ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Et puis aussi, le fait qu'elle soit de la même couleur que moi, ça me permettait d'avoir une image sur laquelle je pouvais m'identifier, en fait, d'avoir une projection de moi. Parce que tout ce que je voyais, moi, j'avais tendance à regarder vers les États-Unis parce que je me reconnaissais plus dans ces femmes-là. Et je n'avais pas trop en France cette image. Il y avait Joséphine Baker, peut-être, mais voilà, je manquais aussi de personnes à qui m'identifier.
Et vous, Nash, parce que oui.
Ouais, moi, par rapport au chant, par rapport à ça aussi, je me suis rendu compte que moi, j'étais une enfant, mais comme beaucoup d'artistes, hein, hypersensible. C'est-à-dire que j'étais vraiment sensible aux énergies. J'étais très très sensible à tout, quoi. Voilà. Et je me disais, mais comment je vais réussir à vivre dans ce monde, quoi, avec ma sensibilité exacerbée, où dès que je ressens la peine de quelqu'un, ou dès que j'ai une émotion qui me traverse, ça me bouleverse, ça va être très fatigant, quoi. Et quand j'ai entendu Maria Callas ou des voix comme ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'elle exprime un truc, qu'elle sort quelque chose et qu'elle arrive quelque part à exprimer un truc qu'elle n'arriverait jamais à exprimer autrement qu'avec sa voix. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que j'essaye ça, peut-être que ça a marché, et ça a marché, donc c'était bien.
Mais entre le moment où on se dit, quand on est enfant, j'ai envie d'être chanteuse, et le moment où ça s'ancre, enfin, où vraiment ça devient une réalité, il se passe beaucoup de temps.
Ouais, c'est comme tu veux.
Oui, pour mon cas, oui. entre 5 ans, après, vous avez parlé des 13 ans où j'ai commencé à composer, etc. Enfin, composer, m'accompagner un peu au piano. J'ai fait des études d'ethnomusicologie, enfin, d'abord sociologie, ethnomusicologie, mais les cours étaient un peu trop théoriques pour moi. J'avais l'impression que c'était pas assez pratique. Moi, j'avais besoin de m'exprimer. Et j'ai ensuite quitté la fac pour faire plein de petits boulots pour pouvoir, à côté, voilà, chanter là où je pouvais. Je faisais du gospel à l'époque. Du coup, et j'ai pris des cours de chant aussi parce que je n'en avais pas pris jusque-là. Et j'ai mis du temps à me dire, je veux vraiment faire de la musique et faire faire ce métier de ma vie. Enfin, voilà. Donc ça a tardé. Du coup, j'ai sorti un premier album assez tardivement, mais voilà, je suis contente de ce parcours.
Et vous, Nash, le fait d'être née dans une famille de musiciens, est-ce que ça facilite les choses ou pas ?
J'ai adoré le bah oui. Eh bien, figurez-vous que non. Le bah oui. En fait, il y a vraiment ce truc où tout le monde pense. Et j'allais rebondir avant que vous me posiez cette question, mais j'allais dire, bah, vous savez, c'est marrant parce que je suis sûre que tout le monde pense que pour moi, ça a été plus facile. Bah oui, mais en fait, ce n'est pas vrai. Être dans une famille de musiciens, en plus de musiciens rayonnants, c'est-à-dire de musiciens voilà, qui sont connus, qui ont réussi et tout ça, c'est très difficile parce que les gens vous attendent au tournant direct et que de toute façon, mon père m'a toujours dit, quand je lui ai dit, je crois que je vais faire de la musique aussi, il m'a dit, bon, bah, ça, je te le dis direct, tu vas devoir être deux fois meilleur que les autres. Je te le dis parce que de toute façon, il faut que tu prouves que tu as quelque chose à dire toi et que tu es une individu unique, une artiste unique, alors que tu es dans cette famille-là. Donc, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est pas si évident. Et non, ça n'avait pas été facile non plus pour moi, bizarrement, dans le sens où j'ai dû aussi me donner naissance, en fait, et aussi me dire, mais qui je suis, moi, dans tout ça ? Qui je suis ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? Parce qu'en fait, je suis hyper influencée, évidemment, par mon père, mon frère, que je vois depuis toujours sur scène. C'est mes super-héros, quoi. Et en fait, mes moi, j'ai vraiment quelque chose à dire. Est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je fais ? Qui je suis ? Je suis quel artiste, en fait, là-dedans ? Et donc, ça a été une vraie traversée du désert, mais qui a été très initiatrice. Mais je pense que pour tous les artistes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, c'est un cheminement, quoi, pour se trouver.
Alors, une traversée du désert, on va y revenir, puisque vous avez, vous êtes allé au Maroc pour faire votre dernier album. On va en parler après. Justement, est-ce que cette traversée du désert vous a permis d'exprimer ce que vous aviez à exprimer, puisque vous dites que c'est un album très personnel que vous avez sorti. Est-ce que cette place, est-ce que ça vous a permis de trouver cette place que peut-être, comme vous venez de l'exprimer, c'était difficile de la trouver. Voilà. Mais j'aimerais que vous nous interprétiez deux chansons avant qu'on parle plus précisément de votre album. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter ?
Je ne sais pas. Je me suis dit que j'allais pas y réfléchir avant, donc je vais mettre devant celui-là, et je vais voir. Je me suis dit quand même, ah, je crois que c'est pas, ouais, voilà. Je me suis dit tout à l'heure, peut-être de vous jouer le premier morceau de cet album Peau Neuve, qui est en fait un album qui parle de renaissance, de mue, de changement, et tout commence par un chaos, un chaos. Et il faut toujours un chaos pour renaître et changer. Et donc voilà, je vais vous chanter Cadeau d'adieu, qui est la première chanson du disque. J'aurais voulu t'en écrire des tonnes, te le dire à jamais, te le dire comme personne, mais rien n'est venu au moment venu. Et aujourd'hui, alors que la fin sonne, que tu es parti, que mon cœur démissionne à jamais, je prends ma plume à titre posthume. Je te laisse cette chanson d'amour comme cadeau d'adieu. Et même si c'est trop tard, si tu n'en veux plus, je le fais pour notre histoire, tout ce qu'on a vécu tous les deux. Les jours passent, ton image s'éloigne, mais dans la grâce, ton amour accompagne mes pas. Je le sens là, tout près de moi. Et même si bientôt quelqu'un frappe à ma porte, si un de ces jours un autre amour t'emporte loin de moi, ça ne change rien à ce refrain. Oui, je te laisse cette chanson d'amour comme cadeau d'adieu. Et même si c'est trop tard, si tu ne m'entends plus, je le fais pour notre histoire, pour tout ce qu'on a vaincu tous les deux. Et je le sais, peut-être dans 10 ans, quand on repensera à ce séjour charmant ensemble, on en rira comme autrefois. Alors, pour ne pas retenir le mal, les confusions, l'épisode fatal, il me semble que cette mélodie puisse nous redonner vie. Alors, je te laisse cette chanson d'amour comme cadeau d'adieu. Et même si c'est trop tard, si on ne s'aime plus, je le fais pour notre histoire, pour tout ce qui a survécu de nous deux. À son terme, s'est inscrit dans mon épiderme et j'ai perdu toutes mes plumes. Voyage, mes cicatrices comme une flamme dans les coulisses qui me démange et me consume. Qui pourrait me sauver, me saisir, me ressusciter, faites qu'apparaisse une main tendue. car je ne peux me relever, voudrais t'en laver d'une caresse, mon cœur à nu faire. Peau neuve, ta brasse du passé, pourvu qu'il pleuve un fleuve, des trombes d'eau et d'or sacrées sur ma peau neuve, je veux renaître sous une pluie dorée alors, pourvu qu'il pleuve un fleuve sur tout mon corps abandonné. Je mute comme la saison débute ma transformation, je ne suis plus tout à fait la même. C'est l'heure de mes retrouvailles sans armure et sans médaille, dans mon plus simple appareil. De tout mon être, je bascule dans ce flot d'amour qui m'accule, je veux que ne cesse cette parade nouvelle. Je m'engouffre dans la candeur de ce souffleur réparateur qui me résolve et me révèle. Je fais peau neuve, ta brasse du passé, pourvu qu'il pleuve un fleuve, des trombes d'eau et d'or sacrées sur ma peau neuve, je veux renaître sous une pluie dorée alors, pourvu qu'il pleuve un fleuve sur tout mon corps abandonné. Je fais peau neuve.
Merci Nash. Eh bien, Peau neuve, c'est le titre de votre dernier album que vous êtes allé créer en voyage. Vous avez fait un peu la route entre un peu le sud-ouest de la France et puis surtout le Maroc. Après un chaos, comme vous disiez tout à l'heure, vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Oui, il y a 3 ans, j'ai vécu un grand bouleversement dans ma vie. J'ai vécu une séparation, un déménagement, l'arrêt de ma tournée avec le Covid. Et comme beaucoup de gens après le Covid, il y a eu voilà, des changements de trajectoire comme ça. Et je me suis retrouvée vraiment toute seule, sans chéri, sans maison, sans travail. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer quoi ? Enfin, qu'est-ce que je vais faire quoi ? Et donc, en fait, je suis partie pendant 6 mois en voyage dans la Drôme, dans les Cévennes et au Maroc. Et en arrivant au Maroc, comme une espèce de... Je me suis dit, je vais partir faire des chansons. Peut-être que ça va me redonner un sens à ma vie, une direction, une voie. Et en fait, en arrivant au Maroc, très innocemment, j'ai fait un hammam. Et je suis arrivée dans ce hammam, il y avait cette dame qui me jetait des seaux d'eau partout sur le corps et je voyais mes peaux mortes comme ça partir dans le flot de l'eau. Et là, j'ai eu comme une espèce de révélation, j'ai eu peau neuve, Anna. C'est ça, en fait, tu dois parler de ça, tu dois parler de renaissance et de mue, c'est ça. Et je suis partie de ce hammam et j'ai écrit Peau neuve, cette chanson. Et après, j'avais l'idée de mon album. Et depuis cet album, enfin depuis ces chansons-là, ces chansons sont devenues un disque, une tournée. Et en fait, ça fait maintenant 2 ans que Peau neuve m'accompagne et que ça a redonné un sens à ma vie, une direction, que ça a marché.
Oui, d'ailleurs, vous parlez de renouveau, de renaissance même, c'est très fort.
Oui, c'est ça, de renaissance, oui, vraiment de renaissance, oui.
Alors, Peau neuve, vous avez fait aussi un clip dans le désert. C'est quoi ? C'est aussi une manière de faire une nouvelle peau, de sang, parce que votre clip, vous vous enterrez dans le sable.
Ouais, le clip, je suis vraiment sous, je sais pas, 150 kilos de sable, je crois. Et d'ailleurs, c'était très très éprouvant, hein, parce que on se rend pas compte, c'est très très lourd. Et l'idée de ce clip, c'était que je sorte de ce sable, que j'arrive à me débattre et à sortir et faire peau neuve. Mais je voyais un peu cette comme une espèce d'allégorie d'une plante comme ça qui ressort de terre. Et voilà, c'est une renaissance, que l'enterrement, c'est toujours lié à la mort. Et pour qu'il y ait renaissance, faut qu'il y ait mort. Donc l'idée, c'était ça. Et en fait, je me suis fait vraiment prendre à mon propre jeu. Je me disais, oh, ça va être super, ça va être génial comme idée. Et en fait, j'ai mis 8 fois le morceau à sortir. Donc j'ai mis je sais pas combien de minutes à sortir. Et j'arrivais pas, c'était trop lourd, j'arrivais pas à sortir du sable. Et j'ai pleuré carrément parce que j'arrivais pas à le faire. Et donc on s'est filmé, c'est-à-dire que j'ai éprouvé vraiment la renaissance pendant ce tournage. Et c'est capté en vrai, quoi. Donc c'est assez fou.
Et donc le tournage, enfin pas le tournage du clip, les chansons, l'écriture des chansons, vous les avez enregistrées par contre au Maroc également
ou... J'ai enregistré toutes les maquettes toute seule dans mes petites cabanes là, j'ai les maquettes et après je suis rentrée.